encore pour étudier ta parole et plonger dans nos regards dans le trésor le plus précieux qui soit donné à l'homme. Cette parole qui émane directement de ton trône de grâce et qui est source d'instruction, source d'enseignement et source de bénédiction pour nous encore aujourd'hui. Et ta parole reste et demeure efficace en tout temps, en tout lieu, en toute époque. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur de nous confronter avec la réalité de notre état. Merci Seigneur de nous confronter avec une possibilité de croissance et avec un appel à la progression. On reçoit cette parole comme étant un enseignement approprié pour nous, un enseignement propice à notre croissance, un enseignement que tu as pensé, prévu, planifié, désiré de toute éternité pour cette génération-ci, pour nos oreilles et celles de nos contemporains. Alors qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans deux endroits, dans Luc 4, 18 et 19, et puis par la suite dans Philippiens 4, 18. Alors, je lis pour vous tout d'abord dans Luc au chapitre 4, le verset 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et notre phrase, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et on sait qu'on étudie cette semaine donc le terme grâce et non pas charisme, comme on a l'habitude de le voir. Charisme, le terme grec qui veut dire la grâce au niveau du salut, ce bienfait non mérité qui nous est accordé, mais on parle du terme dektos. Et le terme dektos, comme on l'a vu depuis dimanche, apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament, donc 2 fois dans le chapitre 4 de Luc. Et aujourd'hui, on est rendu à la 5e mention de dektos qui se trouve, et je vous invite à ouvrir avec moi, dans Philippiens au chapitre 4, le verset 18. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Paul est en train de dire et de parler d'une occasion particulière où il a reçu de la part de l'église de la ville de Philippe, donc de la part de l'église philippienne, et non pas philippine, philippienne. Il a reçu des vivres, il a reçu des cadeaux, il a reçu des sous pour sa subsistance qui lui ont été transmis à travers la sœur Épaphrodite. Et il va dire de ce qui lui est parvenu que cela est comme un sacrifice ou un parfum de bonne odeur et un sacrifice qui est agréable à Dieu et que Dieu accepte. Et le terme dektos aujourd'hui, c'est ce terme accepte, un sacrifice que Dieu accepte. Pour nous, ça veut donc dire qu'il y a des sacrifices, et quand on parle du sacrifice aujourd'hui de dektos, on parle encore une fois du service. Ça veut donc dire qu'il y a du service qu'on rend à Dieu, que Dieu accepte, et d'autres que Dieu n'accepte pas. Le cas le plus célèbre dans la parole de Dieu, et j'ai eu l'occasion de le mentionner dimanche, c'est le cas d'Abel et Caïn. Abel qui offre un agneau, Caïn qui offre des fruits et des légumes, et la Bible nous dit que Dieu va refuser l'offrande de Caïn. Juste pour être très très bref sur le sujet, puisque je l'ai déjà mentionné dimanche, lorsque Dieu refuse le sacrifice de Caïn, c'est que Caïn sait, de par le fruit de la connaissance du bien et du mal que leurs parents ont mangé dans le jardin d'Éden et qui a été la cause du péché initial pour le reste de l'humanité. Caïn, de façon intrinsèque, sait, connaît ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. Donc, ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve. Et ce faisant, il sait très bien que l'offrande d'Abel, qui est un agneau, est acceptée, alors que Dieu n'accepte pas l'offrande de légumes et de fruits que Caïn va lui donner. Pourquoi il le refuse? Ben, il le refuse parce que à la base, c'est une offrande qui se veut une offrande de rémission des péchés, et que pour la rémission des péchés, il y avait du sang qui devait couler. Jésus-Christ étant cet agneau de Dieu qui purifie le pécheur repentant. Donc, la même loi qui a été appliquée à Caïn, à Abel, à Adam et à Ève, puisque Dieu va tuer des bêtes pour les couvrir de leur nudité. Lorsque Dieu va vouloir sauver l'humanité, il va là aussi offrir un sacrifice, Jésus-Christ, son Fils, qu'il a donné pour le salut de l'humanité, qui va mourir en versant son sang, et le corps étant brisé. Donc Dieu peut accepter et refuser notre offrande. Et pour toi et pour moi, c'est la même chose aujourd'hui. Je crois que c'est hier ou avant-hier, on parlait de l'offrande et on disait que lorsqu'on amène nos offrandes à l'Église, dîmes ou offrandes, lorsqu'on fait un don à l'Église, la Bible nous dit d'amener nos offrandes avec joie. Et très régulièrement, la personne qui dirige le culte, la personne qui anime ce moment des offrandes va dire, regardez, si vous êtes pour donner sans joie, on vous conseille plutôt de garder ses sous pour vous parce que celui qui donne doit donner avec joie. Donc, ça veut dire que si j'amène mon offrande à Dieu avec un tordage de bras ou avec l'attitude d'un bras tordu, si j'amène à Dieu et si je sers Dieu à contre-cœur, je ne suis pas en train d'être béni. Un autre cas qu'on voit là, dans un même ordre d'idées, c'est le cas de Jonas. Jonas qui va être envoyé à Ninive pour prêcher alors que Dieu veut détruire la ville. Et Jonas va dire, voici, Dieu s'apprête à détruire la ville, Dieu s'apprête à détruire la ville, Dieu s'apprête à détruire la ville. Et Ninive, entendant ce message, va se repentir. Leur demande de pardon monte jusqu'à Dieu. Et Dieu décide de sauver la ville, d'épargner la ville. Et la Bible nous dit que Jonas va se tourner vers Dieu en disant, mais voilà ce que je voulais éviter. Alors foncièrement, Jonas, lorsqu'il va servir Dieu à Ninive, bien que le résultat soit atteint, dans le sens où Ninive va se repentir et être sauvée, Jonas, pour lui-même, ne reçoit aucune bénédiction pour l'action qu'il a faite. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec un mauvais cœur, parce qu'il l'a fait à contre-cœur, parce qu'il l'a fait comme s'il avait un couteau sous la gorge et puis le bras qui était tordu, comme il ne l'a pas fait avec un cœur joyeux et avec un cœur dévoué. Ben, à ce moment-là, il n'a pas été béni. On voit la fin du livre de Jonas où il est plus ou moins laissé pour compte par Dieu. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il est laissé pour compte et pourquoi la ville a été sauvée? Ça, c'est un court aparté. Ben, la ville a été sauvée parce que la Bible nous dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir donné le fruit ou l'effet pour lequel elle a été prononcée. Donc, Jonas, qui était un mauvais serviteur de Dieu, Jonas qui avait un mauvais cœur, Jonas qui avait une mauvaise intention, a malgré tout proclamé la parole. Cette parole a été transmise à Ninive et elle est retournée à Dieu en portant le fruit pour lequel elle a été proclamée, qui était la repentance du peuple et le salut de la ville de Ninive. Donc très souvent, je dis, regardez, le porte-voix de Dieu pour la prédication, c'est une chose, mais ça ne garantit pas que celui-ci, tout simplement parce qu'il aimait la parole de Dieu, que celui-ci est en règle avec Dieu. Et voilà pourquoi, même lorsqu'on voit des prodiges et des miracles et lorsqu'on voit des signes qui accompagnent une prédication, ce n'est pas nécessairement un gage de perfection dans le serviteur qui émet ses paroles. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir porté fruit. Donc l'important pour nous ce matin est toutefois de revenir sur le fait que notre offrande peut être acceptable ou inacceptable par rapport à Dieu. Ce matin, on va voir environ 5 déclinaisons par rapport à ce mot acceptable. Le premier, c'est présentable. Une offrande qui est présentable à Dieu. Ça veut donc dire que lorsque j'offre une offrande, je dois aussi veiller à honorer Dieu à travers cette offrande. Vous savez, lorsque vous recevez quelqu'un et que vous n'offrez que le vaille que vaille à la personne, et vous vous dites, bon, ben cette personne aura tout simplement à apprécier ce que je lui ai donné, puis ça s'arrête là, que ce soit beau, que ce soit laid. Mais l'attention que vous allez mettre dans la façon de recevoir la personne, l'attention que vous allez mettre dans la façon de servir les gens, vont aussi honorer ou déshonorer ces gens. Ça fait bientôt un an maintenant qu'on n'a pas eu de tablé du quartier. Cette activité où on accueillait les gens moins bien nantis du quartier et qui venaient partager avec nous un repas chaud. Un des gages qu'ils avaient lorsqu'ils venaient à la tablée du quartier, c'était qu'on s'assurait de les accueillir avec sourire, avec joie, et on les faisait manger dans des assiettes solides, avec des couverts solides. On leur préparait de la nourriture qu'on s'assurait qu'ils n'auraient pas l'occasion de manger à la maison, tout simplement parce qu'on voulait les honorer. C'était pas nécessaire, c'était pas un plat qu'on garrochait, qu'on lançait dans leur assiette en disant ben de toute manière contente-toi de ce que j'ai. On essayait de leur donner à chaque fois un menu différent avec des saveurs différentes et leur donner l'occasion de manger des choses que eux ne mangeraient pas à la maison. Donc leur donner une petite sortie comme si c'était au restaurant. Pourquoi on faisait ça? Mais on faisait ça pour honorer nos invités, pour honorer nos visiteurs. C'est idem concernant Dieu. Ce que je donne à Dieu va l'honorer ou va lui manifester du mépris. Si quelqu'un vient chez moi et puis que j'ai la possibilité de lui donner quelque chose de bien et que je décide plutôt de lui donner un verre d'eau puis du pain sec, ben, cette personne-là, je suis en train de la mépriser. Je suis en train de dire, tu n'es pas assez important pour moi pour que je te donne ce que j'ai de bien. Regardons le cas de cette veuve qui n'avait plus qu'un peu d'huile et un peu de farine. Et le prophète lui dit, va cuis-moi un gâteau. Et elle va dire, mais regardez, j'ai juste ça qui me reste, je vais le préparer pour moi et mon fils. Et on va mourir. Après, on va mourir de faim. Et le prophète dit, fais comme tu as dit, mais avant ça, prépare-moi un gâteau. Elle va donner donc de son meilleur à ce prophète. Et la Bible nous dit que par la suite, elle n'a manqué de rien pendant toute la période de famine de laquelle était affligé le pays. Lorsque le Seigneur, à un moment donné, Jésus se retrouve dans une synagogue avec ses disciples et il voit les bien nantis de la ville apporter un tas de choses, bien des sacs remplis d'argent, et il voit une petite dame âgée, veuve, qui amène une seule pièce. Et le Seigneur demande à ses disciples, alors qui a donné le plus? Et les gens vont dire, ben assurément, c'est bien nantis de la ville. Et Jésus va dire, en fait, celle qui a donné le plus, c'est cette femme veuve qui a donné de son nécessaire. Les autres ont simplement donné de leur extra, de ce qu'ils ont en superflu, alors qu'elle, elle a donné de ce qui était son nécessaire. Et ce faisant, elle a honoré Dieu davantage que les bien nantis qui n'avaient donné tout simplement quelque chose qui leur coûtait rien en fait, quelque chose qui ne leur demandait rien. Alors l'offrande que tu vas amener à Dieu, est-elle présentable à Dieu? Est-elle honorante? Est-ce qu'elle honore le Seigneur ou elle le méprise? Première question, et c'est simplement toi face à Dieu qui va y répondre ce matin. Et assurément, tu as déjà cette réponse à l'intérieur de toi par rapport aux dernières offrandes que tu as faites, mais de surcroît à cela, au service que tu rends. Donc, ton offrande, ton service, le service par rapport à l'œuvre de Dieu que tu offres, est-ce que ce service honore Dieu ou méprise Dieu? Deuxièmement, quand on parle d'acceptable, on parle du terme approuvable. Est-ce que Dieu peut approuver ton offrande? On a dit tout à l'heure, si tu es pour donner avec douleur, si tu es pour donner avec un bras tordu, si tu es pour donner à contre-cœur, on préfère que tu ne donnes pas parce que celui qui donne doit donner avec joie. Quand tu donnes de ton temps, quand tu donnes de tes talents, quand tu donnes de ta disponibilité, quand tu donnes de tes efforts, quand tu donnes de ta personne au service de Dieu, est-ce que Dieu peut approuver cela? Est-ce que tu le donnes avec joie? Deuxièmement, ce que tu amènes à Dieu doit être sanctifié. Est-ce que la vie que tu amènes à Dieu, cette offrande de temps que tu offres à Dieu, ton corps que tu offres à Dieu, est-ce que tu l'offres, est-ce qu'il est sanctifié? Est-ce qu'il recherche constamment la sanctification ou tu dis au Seigneur, ben, tu vas me recevoir tel que je suis? Je comprends, il y a ce vieil hymne que j'aime énormément qui dit « Tel que je suis, je viens à toi ». Mais oui, mais là on parle du pécheur qui vient à Dieu. Mais celui qui sert Dieu, logiquement, il a passé cette étape de la repentance et du salut. Donc logiquement, tu dois avoir été sanctifié. Donc après ta sanctification initiale, continues-tu à vivre dans une vie de sanctification? Est-ce que tu continues à aspirer à la sainteté? Est-ce que c'est quelque chose que tu veilles, sur laquelle tu veilles au niveau de ta vie? Est-ce que tu veilles à être agréable à Dieu? Est-ce que tu veilles à être acceptable à Dieu? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des offrandes qui ne sont pas acceptables. Il y a des offrandes que Dieu rejette. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas accepter, que tu lui donnes peut-être. Des attitudes, des façons de faire. Des timbres de voix, des offrandes qui ont été faites sans avoir veillé à ce que tu sois sanctifié auparavant. La Bible nous dit que ceux qui s'approchent du Seigneur doivent se sanctifier. C'est un Dieu qui est pur, c'est un juge qui est juste. Alors celui qui s'approche du Seigneur doit aussi s'approcher avec sanctification, en recherchant la sanctification. Donc ton offrande, ton service est-il approuvable de Dieu? Troisième terme, valable. Valable dans le sens avoir de la valeur. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu de ton superflu comme ces riches dans la ville que Jésus illustre à un moment donné? Ou tu donnes comme cette veuve de ton nécessaire? Est-ce que tu donnes à Dieu du superflu de ton temps? Est-ce que tu donnes à Dieu de l'extra, extra, extra qui reste après que tu aies tout compartimenté, où tu donnes à Dieu la primauté de ton temps, la primauté de tes efforts, la primauté de ta force, la primauté de tes talents, la primauté de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. Plus Dieu est élevé dans les priorités de ta vie, plus tu l'honores, mais plus tu fais passer des choses avant lui, plus tu es en train de dire « tu comptes après cette chose-ci ». Après cette personne-là, après cette activité et après ce besoin. Et assurément, on a tous des efforts à faire là-dessus pour que Dieu soit effectivement la première de toutes les priorités de notre vie. Donc, quelle est la valeur de ce que tu offres à Dieu? Est-ce que c'est tout simplement le restant du restant? Ou ce que tu offres à Dieu, c'est le prémisse? Voilà ce qui était intéressant dans l'offrande qu'on appelait le prémisse. Il y avait la dîme, il y avait les offrandes, et parmi les offrandes, il y avait l'offrande du prémisse. Le prémisse, c'était, voilà la première récolte d'un champ, nous la donnons à Dieu. La première portée d'un troupeau, on le donne à Dieu. Qui faisait en sorte qu'on disait, on honore Dieu avant de s'honorer soi-même en se gâtant par le fruit de notre travail ou en faisant un profit en vendant cela. On disait avant que quiconque n'y touche, on offrait donc cette récolte-là. Et une fois que cette récolte était donnée, périodiquement, donc année après année, on offrait aussi la dîme de notre récolte. Mais la première récolte initiale d'un champ, on la donnait à Dieu pour montrer au Seigneur qu'il était effectivement la première de toutes les priorités qui étaient celles du cultivateur. Alors je te pose la question, est-ce que Dieu a effectivement primeur par rapport à toute autre priorité de ta vie? Est-ce qu'il a priorité sur toute autre personne de ta vie? Est-ce qu'il a priorité sur toute activité de ta vie? Est-ce qu'il a priorité sur tout effort que tu fournis dans d'autres domaines de ta vie? Alors, est-ce que ton offrande a de la valeur pour Dieu? Quatrième terme, acceptable comme satisfaisant. Satisfaisant et acceptable veut dire que ça répond aux attentes de Dieu. Ton offrande, ton service répond-il aux attentes de Dieu? Ton service est-il à la hauteur des standards de Dieu? Ou fais-tu, comme on l'a dit tout à l'heure, en disant, ben, le Seigneur va se contenter de ce que je lui donne? Est-ce que tu regardes le Seigneur en disant, ouais, je sais que j'aurais pu faire mieux, et assurément j'aurais pu faire mieux, mais Seigneur, je te donne cela, puis j'espère que tu seras content. Lorsque on arrive au restaurant et qu'il y a un serveur qui nous sert très mal, ben, au Canada, du moins au Québec, on a ce qu'on appelle le pourboire, qui n'est pas inclus dans la facture. Donc, selon le service de la personne qui nous sert lorsqu'on visite le restaurant, on va calculer, était-il souriant? Était-il avenant? Était-il prévenant? Était-il vraiment à son affaire? Était-il poli? Était-il agréable de compagnie? Nous a-t-il donné de bons conseils? A-t-il essayé de nous servir encore mieux que ce qu'on aurait demandé? Et si effectivement il remplit toutes ces cases, alors le pourboire va en rapport avec le service qui a été donné. Pourquoi? Parce que on a été satisfait, donc on récompense le service. On a des attentes lorsqu'on va au restaurant. On s'attend à ce que la nourriture soit bonne, à ce que la nourriture soit chaude, à ce que la nourriture craque lorsqu'elle doit craquer, à ce que la nourriture soit fraîche, à ce que la nourriture soit bien présentée. Et si ça ne correspond pas à ces attentes, on dit on n'est pas satisfait. Dieu regarde le service que tu donnes et Dieu a tout à fait le droit et Dieu fait effectivement cet examen et il regarde en disant je suis satisfait ou je suis insatisfait. N'oublions pas, il est le maître et nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs sous le regard de notre maître. Nous sommes des serviteurs qui travaillent pour un maître et ce maître juge notre travail. Il y a trop de chrétiens qui vivent comme s'il n'y aura pas de jugement pour les chrétiens. Mais Dieu va juger ton travail. Dieu va juger ton service. Dieu va juger ta paresse. Dieu va juger ton ardeur à la tâche. Et voilà pourquoi Paul va dire qu'il est convaincu que la couronne lui est réservée. Parce qu'il a combattu selon les règles. Parce qu'il a combattu jusqu'au dernier moment. Parce qu'il ne s'est pas arrêté en cours de route, alors Dieu, oui, va aussi juger ton service. Et ton service va être trouvé acceptable ou inacceptable. Ton service va être trouvé satisfaisant ou insatisfaisant. Alors le service que tu offres à Dieu, le travail que tu fais pour Dieu, répond-il à ses attentes, oui ou non? C'est des questions que tu dois te poser. Et c'est des questions que tu dois poser à Dieu. Dernier terme pour ce matin, convenable. Lorsque quelque chose est acceptable, quelque chose est donc convenable. Et lorsqu'on on parle de convenable ici, on veut dire quelque chose qui est suffisant face aux besoins de l'œuvre ou suffisant face au mandat qui nous a été donné. Tout à l'heure, c'était « Est-ce que Dieu est satisfait de ton travail ?» Mais là, c'est vraiment, est-ce que j'ai donné ce que je devais donner pour l'œuvre où je me suis économisé? Il y a un tas de chrétiens qui véhiculent une fausse pensée selon laquelle tu dois faire attention à toi, tu dois t'épargner, tu dois t'économiser, parce que sinon, tu vas te brûler puis tu ne seras plus capable de servir. Je ne sais pas où cette théorie a été prise dans la parole de Dieu. Je sais, on nous parle du sabbat, on doit se reposer. Il y en a qui préféreraient avoir 6 jours de sabbat et une journée de travail. Je comprends que le sabbat soit la journée qui est consacrée à Dieu, mais pensez une chose. Le jour du sabbat, il y a 20 catégories du peuple de Dieu qui servaient. Le jour du sabbat, les prêtres. Le jour du sabbat, les sacrificateurs. Le jour du sabbat, les lévites, ils travaillaient. Alors, es-tu un lévite ou tu n'es pas un lévite? Es-tu un sacrificateur ou n'es-tu pas un sacrificateur? Alors, si le sabbat de Dieu est 7 jours sur semaine maintenant, est-ce que ça veut donc dire que toi, en tant que sacrificateur, et on se rappelle un des passages qu'on a étudié au courant de l'année dans 1er Pierre, où on dit que nous sommes une race élue, une nation de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs, ça veut donc dire que toi et moi, nous servons à tous les jours maintenant? Ça veut dire que même le jour du sabbat, le jour du Seigneur, nous servons aussi? Je ne veux pas dire que tu dois te tuer à la tâche. Et encore là, je veux dire oui que tu dois te tuer à la tâche. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas te brûler si tu travailles pour Dieu. Ça voudrait dire que Dieu ne veille pas sur toi. Ça voudrait dire que Dieu ne te protège pas. Ça voudrait dire que Dieu ne renouvelle pas tes forces. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Soit il est ce qu'il dit qu'il est, ou soit il ne l'est pas. Et la Bible nous dit que celui qui est fatigué est chargé, qu'il vienne à lui et qu'il lui donnera du repos. Alors soit Dieu te donne du repos, soit il ne t'en donne pas. La Bible nous dit qu'il renouvelle nos forces. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et ils prennent le vol comme l'aigle. Alors, est-ce qu'il va, oui ou non, renouveler tes forces? Très régulièrement, on prend la question de se protéger tout simplement pour excuser, pour cacher une certaine paresse. Certains vont dire que je suis excessif. Paul va dire à Timothée, tout aussi excessivement que moi, insiste en toute occasion, favorable ou non, en toute occasion. Ça veut dire le jour de repos, le jour du travail. Insiste, insiste constamment. Fais l'œuvre d'un évangéliste, insiste constamment. Paul était excessif ou Paul était tout simplement serviteur de Dieu? Lorsqu'on regarde le travail de l'Église primitive, lorsqu'on regarde l'implication des croyants, lorsqu'on regarde ce qu'ils offraient à Dieu, était-il excessif ou était-ce tout simplement la norme de tout croyant? Est-ce que ça se pourrait qu'avec les années, avec le temps, on soit devenu plus ou moins paresseux par rapport à Dieu, paresseux par rapport à son œuvre? Est-ce que ça se pourrait qu'on soit devenu égoïste en pensant d'abord à nous? Est-ce que la pensée de « sauve-toi premièrement et après ça tu pourras t'occuper des autres » est devenue notre parole d'évangile, alors qu'à mon avis elle est totalement parole du diable? Si Jésus s'était économisé, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. C'est parce qu'il a donné sa vie en offrande que toi et moi nous sommes sauvés aujourd'hui. Si nous sommes des chrétiens, des imitateurs de Christ, comment pouvons-nous prétendre alors devoir nous économiser pour être à mieux de donner plus tard? Que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse me parler, afin que ton offrande, ton service, afin que ta vie de serviteur soit présentable, qu'elle ne méprise pas Dieu, soit approuvable, donc que Dieu puisse l'accepter, soit valable, donc qu'elle ait de la valeur par rapport à Dieu, soit satisfaisante, donc qu'elle corresponde aux attentes de Dieu par rapport à ta vie, et soit convenable, donc qu'elle réponde aux besoins du mandat que Dieu t'a accordé. Voilà ce qu'on avait pour nous ce matin. Dectos, comme dans acceptable pour Dieu et pour son œuvre. Alors, on va prier. Après ça, on va saluer les personnes qui se sont jointes à nous après nos dernières salutations. Alors, merci encore une fois, Seigneur, pour cette parole qui nous instruit, qui vient assurément nous bousculer, qui vient assurément nous secouer. Mais Seigneur, toi qui as donné toute ta vie pour nous, qui as offert tout ce qu'il était pour nous par amour, comment, Seigneur, pouvons-nous te donner moindrement que l'ensemble de notre vie? Seigneur, je prie que nos priorités soient au bon endroit, que tu sois la toute première priorité de notre existence. Assurément, il y a des choses importantes et assurément, il y a des gens importants et assurément, il y a des choses sur lesquelles on doit veiller qui sont de cette terre. Mais Seigneur, jour après jour, rappelle-nous de te mettre avant toutes ces choses. Et assurément, tu sauras pourvoir, tu sauras nous guider, tu sauras, Seigneur, renouveler nos forces et nous surprendre par la provision qui vient de toi. Alors je bénis ma sœur et je demande, Seigneur, que tu continues à lui parler aujourd'hui sur ce que nous venons de partager. Je bénis mon frère et je demande pour lui aussi que tu lui parles tout au long de cette journée sur le partage que nous avons eu ce matin. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, saluons quelques personnes. Je remonte un peu. Bonjour à Argelia, bonjour à Jimmy, bonjour à Marie-Marthe, à Georgette et à Andrise, bonjour à Babette et à Andreas, bonjour à Maggie, bonjour à Julie, bonjour à Bernadette, bonjour à Patricia Offray, je prononce le nom de famille parce qu'il y a une autre Patricia aussi. Donc, Patricia de l'île Maurice, bienvenue encore parmi nous. Qui d'autre? Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à la sœur Anna Ruiz et au frère Carlos. Bonjour à Ramon et à Evelyne. Bonjour à Rosie. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, sur ce, on vous salue. On vous invite à être là demain. Demain, c'est vendredi, donc journée de jeûne. Et puis, on a deux rencontres demain. Donc, bénédiction matinale à 8h30, bien entendu. Et puis, par la suite, notre temps de prière et d'intercession. On va probablement être amené à changer notre façon de faire pour les requêtes parce que ça devient compliqué de recevoir toutes les requêtes le soir même, donc on est en train de réfléchir à tout cela, comment on va faire pour englober toutes les requêtes et tous les besoins, parce que ça devient effectivement une charge ardue. La semaine dernière, c'était assez compliqué pour y arriver. Donc, on vous tiendra au courant comment on procède dorénavant, mais en tout cas, demain matin et demain soir, on sera bien entendu là pour prier tous ensemble. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, servez bien Dieu aujourd'hui. Offrez-lui une offrande qui lui est agréable et qui est profitable pour l'avancement de son royaume, une offrande qu'il peut juger comme acceptable. Que Dieu vous bénisse. À demain tout le monde.